Il est 8h.
Je crois qu'il a raison, nos relations sont au plus bas. Nous ne cherchons pas le conflit, mais à établir très clairement les conditions pour une meilleure relation avec la Russie.
Joe Biden face à Vladimir Poutine, ce sera leur premier tête-à-tête. Aujourd'hui à Genève, l'Américain a promis de dire aux Russes ses lignes rouges, cyberattaque, Ukraine, Biélorussie. Nous serons dans quelques secondes avec les correspondants d'Europe 1 à Moscou et à New York, en direct bien sûr. La France et ses 100 milliards d'euros à dépenser pour la relance de l'économie, 36 milliards ont déjà été engagés. Information que révèle Europe 1 ce matin, tout comme le détail des sommes utilisées. Et puis il fut question de fraises Tagada, de bière et d'une barbe un peu blanchie. Vous saurez ce qu'a dit Emmanuel Macron à Édouard Philippe hier en le faisant grand officier de la Légion d'honneur. 8h15, l'interview de Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Un peu de recul ce matin avec le grand rabat de France, Haïm Korsia. Que pense-t-il du climat politique hystérisé en ce moment? Et puis tiens, l'amateur de football qu'il est nous parlera aussi du match solide des Bleus hier, parce que ça fait du bien. Rendez-vous 8h15.
C'est juste après ce journal. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8h, c'est le journal de François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour. La dernière poignée de main entre leaders russes et américains à Genève avait duré 7 secondes en 1985, Reagan-Gorbatchev. Alors aujourd'hui, en Suisse, dans la Villa Lagrange, qui surplombe le lac Léman et qui sera protégée par 4000 policiers, y aura-t-il geste barrière ou bien main tendue entre Joe Biden et Vladimir Poutine? La durée de la rencontre est en tout cas prévue pour 4 à 5 heures.
Et nous sommes en direct avec les correspondants d'Europe 1 aux États-Unis et à Moscou. Alexis Guilleux et Paul Gogo, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alexis, côté américain, Joe Biden s'est montré très ferme ces derniers mois vis-à-vis de la Russie.
Oui, avec la volonté de se démarquer de Donald Trump, qui lui n'avait jamais caché son admiration pour Vladimir Poutine. Alors depuis janvier, Joe Biden réinstaure un rapport de force entre Washington et Moscou. Il le répète, les États-Unis ne cherchent pas le conflit avec la Russie, mais répondront si Moscou continue ses activités nuisibles. Référence à l'ingérence électorale et aux récentes cyberattaques contre des infrastructures américaines menées par des groupes de hackers russes. Les relations entre les États-Unis et la Russie sont au plus bas, a admis Joe Biden ce week-end, et Vladimir Poutine est un adversaire de taille. Il l'avait même qualifié de tueur il y a 3 mois. Un conseiller de la Maison-Blanche a dit s'attendre à une réunion franche et directe entre les deux hommes. Et au cours de cette réunion, il sera aussi question des droits de l'homme, notamment la situation de l'opposant Alexei Navalny, actuellement emprisonné. Mais Joe Biden veut surtout obtenir une relation prévisible et stable avec la Russie, car le premier concurrent des États-Unis au XXIe siècle, ce n'est pas Moscou, mais bien Pékin.
Alexis Guilleux, en direct de New York pour Europe 1.
Paul Gogo, est-ce que vous confirmez, vous qui êtes à Moscou, la Russie a conscience d'être dans un jeu diplomatique à trois?
Oui, Moscou n'est pas dupe parce qu'ici on a beaucoup joué sur cette opposition entre la Chine et l'Ouest pour pousser les États-Unis à baisser le ton. Mais au Kremlin, on l'assure, Vladimir Poutine compte bien jouer le jeu de ce tête-à-tête, quitte à s'asseoir sur les accusations d'ingérence et même les grands mots prononcés par Joe Biden à son encontre. Le président russe n'a toujours pas digéré le « Poutine est un tueur » de Joe Biden. Pour autant, Moscou n'attend pas grand-chose de ce rendez-vous. Le fait qu'il ait lieu, organisé en point d'orgue du déplacement du président américain en Europe, c'est déjà une victoire, une reconnaissance de sa puissance. Et ça, les médias en font déjà leur chou gras depuis plusieurs jours. Les proches du président russe demandent toutefois si cette rencontre suffira à faire baisser les tensions entre les deux pays. Vladimir Poutine fera ce qu'il fait de mieux, prendre ce qu'il y a à prendre sans jamais faire le premier pas.
Paul Gogo en direct, notre correspondant Europe 1 en Russie. Merci à Alexis Guilleux. La couverture de ce sommet, c'est toute la journée sur Europe1.fr. Remontée de tensions au Proche-Orient pour la première fois depuis le cessez-le-feu il y a 3 semaines et demie. Des frappes israéliennes cette nuit sur la bande de Gaza en réponse à des engins incendiaires lancés depuis l'enclave palestinienne. Et puis en Algérie, 2 ans après le départ d'Abdelaziz Bouteflika, c'est encore le FLN qui sort en tête des législatives avec plus d'un quart des sièges, mais une abstention de 77%.
8h4 sur Europe 1. C'était le mot-clé hier soir, mansuétude. Autrement dit, un couvre-feu moins strict le temps d'une soirée de football.
Oui, peu importe les buts français invalidés pour hors-jeu, peu importe les fautes allemandes non sifflées, ce résultat 1-0 pour un premier match de l'Euro et tout de même face à l'Allemagne a donné des airs de fête à tout un pays vraiment déconfiné. Jean-Jacques Herry.
Une victoire des Bleus et une température estivale, voilà de quoi donner envie de jouer les prolongations en terrasse. Et tant pis pour le couvre-feu.
Ça fait quelques mois que je l'oublie, je vous avoue.
Mais oui, là il est quelle heure là?
3h10.
Le bar nous a dit, ah, vous pouvez rester encore un petit peu. Non mais ce qui est marrant c'est que tu vois, genre là les gens étaient en mode, on croyait qu'on avait gagné la finale de la Coupe du Monde, tellement les gens étaient contents d'être dehors et de regarder un match de foot.
Mais très vite, les chaises s'empilent et les tables regagnent l'intérieur des cafés. Et ça, ça pousse à rentrer.
On traîne pas trop, on vient de finir, on est sorti un peu en retard, on est à 10 minutes. On sait qu'on va pas traîner, à 23h30, tout le monde sera au lit. Voilà. C'est ça qu'il faut retenir.
Et pour ceux qui habitent plus loin, aucune inquiétude non plus.
En fait, le couvre-feu, bon, c'est vrai que c'est un peu flex, quoi. C'est un peu flexible. On le sent plus trop, quoi, en tout cas.
Faut voir les policiers dans Paris, vous voyez beaucoup de policiers ici, et non, il n'y en a pas, hein, donc voilà.
Et pourtant, il y a au moins une voiture qui patrouille discrètement dans le quartier. Ce patron de bar vient d'ailleurs de la voir.
Même les keufs, ils sont mignons quand même. Ils sont mignons, tu vois, ils sont passés, ils ont vu qu'à 23h ça fermait, 23h05 ils sont tranquilles. Mais on a hâte que ça soit normal, quoi.
Sur la place voisine, certains refusent encore d'aller se coucher, refont le match au sens propre. Les cris et le bruit du ballon résonneront encore une bonne demi-heure au pied de l'église.
Alors, à Munich, où se jouait la rencontre, on retient aussi que les Bleus n'ont finalement pas mis un genou à terre contre le racisme. Et ce, après une journée de polémique politique, on retient également ce que les téléspectateurs n'ont pas vu. Ce parapente motorisé qui pénètre dans le stade par les airs.
Une action de Greenpeace contre le pétrole qui ne s'est pas passée comme prévu, reconnaît l'association. Jean-François Pérez, l'un de nos envoyés spéciaux d'Europe 1, a tout vu.
Il était 20h58 quand le drame a failli se produire. Les supporters étaient en train de chanter, les joueurs sur la pelouse, prêts à donner le coup d'envoi. Personne ou presque n'a prêté attention à ce drôle d'engin qui semblait, comme cela arrive souvent en football, descendre du ciel pour apporter le ballon du match. L'ULM en question a heurté un câble tendu sur le toit du stade. Il a tangué dangereusement, frôlant les tribunes basses sur plusieurs dizaines de mètres avant de terminer sa course folle sur la pelouse près de la ligne de touche. Pendant que les premiers secours s'affairaient, on a pu voir le message inscrit sur le parachute. Un message Greenpeace, abat le pétrole. Au final, au moins 2 blessés légers, un technicien et un officiel. Greenpeace se dit désolé, l'UEFA déplore un acte inconsidéré. Le militant de l'ONG a été arrêté dans la foulée par la police allemande. La question de la sécurité dans les stades est une nouvelle fois posée. Munich, Jean-François Pérez, Europe 1.
Jean-François, que l'on retrouve en direct dans une demi-heure pour le journal de l'Euro.
Un nouveau cap encourageant. Moins de 2000 malades du Covid en soins intensifs en France. C'est une première depuis 8 mois. Les hôpitaux ont moins d'activité, les entreprises en ont plus peu à peu et le plan de relance est censé tirer l'économie vers l'avant.
Bonjour Carole Ferry.
Bonjour.
Sur les 100 milliards d'euros de ce plan, vous nous révélez en exclusivité pour Europe 1 le montant qui a été dépensé jusqu'à présent.
Alors jusqu'à présent, l'État a engagé 36 milliards d'euros exactement sur les 100 prévus. Comment a été dépensé l'argent? Eh bien déjà dans ma prime Rénov qui permet de subventionner les travaux d'isolation des particuliers. Pour vous donner une idée, il y a eu 315 000 demandes en 5 mois contre moins de 200 000 sur l'ensemble de l'année précédente. Il y a aussi la rénovation énergétique des bâtiments publics. Les travaux ont commencé sur 1500 bâtiments, 170 projets sont même terminés. Sur ces 36 milliards, 1,5 milliard a également été affecté aux entreprises pour les aider à développer de nouvelles lignes de production, par exemple, notamment dans l'automobile et l'aéronautique. Enfin, 400 millions d'euros ont été attribués à des entreprises pour les aider à décarboner leur activité. ArcelorMittal, par exemple, a bénéficié d'une subvention pour rendre ses hauts fourneaux de Fos-sur-Mer plus propres. Au total, selon Bercy, ces aides devraient permettre à notre industrie de réduire ses émissions de CO2 d'1 million de tonnes par an. L'équivalent d'1 million d'allers-retours Paris-New York en avion.
Carole Ferry, et cette information que vous nous révélez est déjà sur Europe1.fr.
Vous restez avec nous, il n'y avait pas de micro ni de caméra hier à l'Elysée, mais vous saurez ce que le président a dit à son ex-premier ministre Édouard Philippe, décoré en petit comité. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h10 sur Europe 1, la suite du journal, François Geffrier.
Comme ceux qui ont passé plus de 2 ans à Matignon, Édouard Philippe a été fait grand officier de la Légion d'honneur hier. Cérémonie à l'Élysée, on guettait des allusions politiques. Aurélie Herbemont est allée glaner pour Europe 1 des confidences sur le discours du président, où il a même été question de pilosité.
Votre barbe est devenue le visage de la crise. Impossible pour Emmanuel Macron de ne pas revenir sur la période du Covid et la barbe, chaque jour un peu plus blanchissante, d'Édouard Philippe. Le chef de l'État n'a pas manqué non plus de retracer leurs 3 ans côte à côte. On ne se connaissait pas avant 2017, mais on s'est bien trouvé, rendant hommage à la loyauté du Havrais et vantant une collaboration utile pour le pays. et agréable. Emmanuel Macron ne s'est pas contenté de lire le CV de son ancien Premier ministre. Il en a dressé un portrait plus personnel, marqué par un amour de la Corona et des fraises Tagada. La lune de miel est de retour, s'amuse un des invités. Car mine de rien, Emmanuel Macron l'a congédié l'an dernier, mais sans le mettre à la retraite. Puisqu'en le décorant, le chef de l'État a eu ces mots « Vous avez encore beaucoup à apporter à la République ». Un proche d'Édouard Philippe Bois du Petit-Lait, il lui donne des perspectives d'avenir qu'il ne donne à personne d'autre.
Et pendant ce temps-là, Jean Castex était encore cloîtré à Matignon pour son dernier jour d'isolement comme cas contact de son épouse. Il a à nouveau été testé négatif hier.
Dans le monde de l'entreprise, et si on oubliait les voitures de fonction réservées aux cadres dirigeants quand un vélo peut faire l'affaire et pour tous les salariés?
Oui, plus 10% d'augmentation de la pratique du vélo depuis le début de la crise sanitaire, plus 67% à Paris et de plus en plus de salariés, Aurélien Fleureau, qui se voient proposer donc un vélo de fonction.
Oui, c'est le cas dans ce cabinet de conseil parisien dont Louis-Grégoire Logre est associé. Une vingtaine de vélos électriques viennent d'être livrés. La moitié de l'entreprise Agama va donc en profiter. Il montre l'exemple et voit même dans cette évolution une manière d'attirer des recrues.
Moi-même qui habite en proche banlieue, je vais venir en vélo. Donc j'aurai 11 km à faire tous les jours. On en a parlé avec des potentiels futurs collaborateurs qui ont trouvé l'idée très intéressante et qui étaient eux-mêmes intéressés. Donc c'est vrai qu'en termes d'image aussi, pour recruter, je pense que c'est un atout en plus qui peut nous permettre de nous différencier.
Pratique pour les multiples déplacements chez les clients, cela correspond à la politique RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise, sans oublier l'avantage fiscal, moins 25% d'impôts pour un engagement de 3 ans. Et c'est aussi une manière de créer du lien social, explique Jérôme Blanc, cofondateur de Team Sport, qui propose uniquement des vélos de fonction et dont l'activité a été multipliée par 10 depuis un an.
Il n'y a plus de hiérarchie, contrairement à la voiture de fonction qui, elle, était réservée plutôt au cadre supérieur ou à la direction. Certains de nos clients nous ont avoué que ça a créé une communauté. Les gens qui ne se parlaient pas auparavant, aujourd'hui se parlent de leur expérience vélo. Et ça fait du bien dans une entreprise aujourd'hui où les gens ne se sont pas vus depuis de nombreux mois.
Et son principal casse-tête en ce moment, c'est de trouver suffisamment de vélos pour répondre aux demandes des entreprises.
Aurélien Fleureau, spécialiste transport d'Europe 1.
Merci beaucoup François Geffrier. Je le dénonce. Il vient à vélo le matin, François Geffrier, au boulot. Même en hiver, je l'ai constaté.
Avec un petit éclairage. Vous le ferez, vous, de 40 km, vous êtes à combien? 50 km?
Plus 75. Merci beaucoup, François Geffrier. C'était le journal de 8h sur Europe 1.